Franck Ferrand nous parle de son nouveau livre.
Vous aimez Au cœur de l'histoire sur Europe 1, alors ce message est pour vous. Parmi les grands récits de l'émission, j'ai choisi mes préférés et j'en ai fait un livre. Des pharaons aux cosmonautes, voici 30 aventures inoubliables des personnages hors du commun.
Avec en cadeau un CD de 4 histoires inédites. Au cœur de l'histoire, aux éditions Flammarion.
De 13h à 14h sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand.
Une fois n'est pas coutume, Franck Ferrand n'est pas à mes côtés aujourd'hui au studio Coluche d'Europe 1, puisqu'il vous propose la visite d'un lieu exceptionnel situé dans le premier arrondissement de Paris, la Comédie Française. Bonjour Franck.
Bonjour Julia, bonjour à tous. La fin de l'année approche et avec elle la période des cadeaux. Eh bien, c'est un présent que nous vous offrons aujourd'hui et... ayons l'honnêteté de le dire, que nous nous faisons à nous-mêmes. Cet après-midi, nous poussons les portes du théâtre français, qui est non seulement l'un des plus vieux théâtres du monde occidental, le seul en vérité qui ait survécu à toutes les vicissitudes d'une histoire dont vous allez voir qu'elle a été très mouvementée, mais qu'il l'a fait sans perdre sa singularité. Aux yeux du public, la Comédie Française, on peut dire que ça reste le nec plus ultra d'une certaine tradition nationale, une institution qui, depuis plus de 3 siècles, fait vivre un répertoire riche de nos jours d'environ 3000 titres. Seulement, il ne faudrait pas oublier, et nous allons le prouver aujourd'hui, que cette maison, la maison de Molière, est aussi un creuset artistique très actif, un véritable laboratoire du théâtre. Alors Julia, pour tout vous dire, je me trouve en ce moment dans le foyer du public, dans le foyer Pierre Dux, qui domine cette place Colette, vous savez que sa fontaine, on est dans le quartier du Palais Royal, tout près du Louvre, on pourrait dire que nous sommes entre le Louvre et l'Opéra, pour ceux qui ne connaissent pas très bien Paris, et nous sommes accueillis ici, dans cette maison de Molière, par l'administrateur général en personne. Bonjour Muriel Mayette.
Mais bonjour.
Je sais que vous arrivez de très loin, vous étiez parti en Extrême-Orient pour préparer des tournées du français. C'est une maison qui exporte son savoir-faire.
C'est une maison qui bouge beaucoup parce que c'est un théâtre et donc on essaie d'être le plus vivant et imaginatif possible.
Alors, nous sommes en train de marcher vers le grand escalier, l'escalier d'honneur par lequel le public accède à la salle Richelieu. Tout à l'heure, à la fin de cette émission, nous serons dans cette salle et nous verrons quelles sont les nouveautés et en quoi le théâtre a évolué depuis que cette salle existe, c'est-à-dire au moins depuis le Second Empire. Ce que j'aimerais avant que vous nous disiez, c'est l'impression que vous avez quand vous arrivez, vous, chaque matin ici. C'est Alexandre Dumas qui disait qu'ici, ce n'est pas un théâtre comme les autres parce qu'il y a des bustes qui vous regardent. Est-ce que vous avez des bustes qui vous regardent plus particulièrement, vous, Muriel Mayette?
Je dirais que j'ai de merveilleux fantômes. J'ai grandi dans cette maison, j'y suis rentrée très jeune. Il n'y a pas une journée où j'ai pas le cœur serré d'amour. D'abord de son mode de fonctionnement, mais surtout de cette conscience d'appartenir à une grande chaîne d'artistes qui se succèdent les uns les autres dans la folie de toujours jouer quoi qu'il arrive.
Et de jouer non seulement dans l'excellence, mais aussi dans une vraie fantaisie. Ça, c'est ce qu'on a parfois tendance à oublier concernant la Comédie Française. Nous passons devant des piédestals de statues qui sont vides, c'est assez terrible.
Là, on est en travaux, et donc on vient de passer devant Voltaire, qui pour un temps n'est plus là, puisqu'on s'est exporté au Petit Palais pour une grande exposition, pour partager en fait avec le public toutes les richesses qui sont dans les parties privées habituellement. Et notamment, il y a les grands portraits de Molière, peints par Coypel, par Mignard, qui sont des chefs-d'œuvre.
Et le fauteuil de Molière aussi,
exactement,
le fauteuil dans lequel il jouait le malade imaginaire au moment où il est
il
très peu de temps dans sa mort.
Il a été pris d'un malaise et puis oui, 4 jours après il est mort. Ouais.
L'emblème de ce théâtre français, c'est une ruche, il faut le
avec
savoir.
Avec la devise « Simulet singulis », qui signifie « être ensemble et rester soi-même », qui est l'équilibre requis pour appartenir à cette
troupe. Vous êtes un peu, si j'ose dire, la reine des abeilles, vous ici. Vous avez 400 personnes en tout qui travaillent pour la Comédie Française, 40 sociétaires, 25 pensionnaires. C'est une équipe très importante qui vous permet de jouer énormément, des centaines et des centaines de représentations chaque année.
Oui, on donne à peu près, par saison, 850 levées de rideau, ce qui est énorme. Et on abrite 22 métiers d'artisanat, puisqu'on est en autonomie totale sur toutes les créations, avec une soixantaine de comédiens géniaux. Et il y a trois piliers dans cette troupe. C'est la troupe, l'alternance et le répertoire. Et ça donne l'excellence de cette école.
si vous voulez, nous vous retrouvons tout à l'heure dans la salle elle-même. Et puis, nous allons nous diriger maintenant vers les parties privées dont vous parliez. Nous allons vers le foyer des artistes, un moment particulier, puisque j'aimerais revenir sur les origines même de cette comédie française, ce qu'on appelle la maison de Molière, mais qui, du vivant de Molière, n'existait pas encore.
L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand.
Et nous retrouvons Franck qui nous fait aujourd'hui la visite de la comédie française.
Et nous avons eu le temps, Julia, de parcourir le petit haut, c'est un tout petit chemin qui nous sépare de haut de l'escalier d'honneur, pour nous installer ici, dans ce foyer des artistes de la comédie française, qui habituellement regorge de grandes peintures, donc en ce moment, pour voir ses portraits, pour voir ses scènes peintes, il faut aller pour l'exposition de la comédie française au Petit Palais. Alors, cette ruche dont nous parlions est un univers à part entière, vous allez le voir, avec toutes sortes de particularités, avec sa société des comédiens, son doyen, son comité de lecture, etc. Il y a tout un ensemble de traditions autour de ce répertoire d'environ 3000 textes, vous imaginez, et puis des lieux tellement extraordinaires, ces loges, ces foyers, cette galerie, bref, tout ce qui constitue la maison de Molière, un Molière auquel le 15 janvier prochain, les comédiens français rendront hommage comme ils le font depuis le 19e siècle. Sachez qu'au moment de la mort de Molière, en 1673, donc c'était le 17 février, cette maison qui porte son nom n'était pas encore née. C'est tout le paradoxe de l'histoire. Les comédiens de la troupe, évidemment, de la troupe du Palais Royal, ont été complètement sonnés par la mort de Molière, mais ils se sont vite relevés. Une semaine après, dès le 24 février, ils donnaient le Misanthrope. Ils étaient bien décidés à poursuivre, mais à poursuivre dans un contexte difficile. Il y avait la concurrence des Italiens, qui à l'époque avaient le vent en poupe, celle des comédiens du Marais, qui restaient accrochés au répertoire de Corneille et à une certaine idée du théâtre à machines, vous savez, avec les grandes machineries, des intrigues souvent compliquées, etc. Il y avait la troupe de l'hôtel de Bourgogne qui jouait beaucoup de Racine, évidemment. Et puis, il ne faut pas oublier celle de l'opéra qui se trouvait sous la tutelle de Lully à l'époque. Lully qui va littéralement poursuivre la troupe de Molière de sa vindicte, même après la mort de Molière. Et du reste, dès avril 73, ce sont les comédiens, danseurs et chanteurs de l'opéra de Lully qui vont remplacer la troupe de Molière dans la salle du Palais Royal. Alors, il faudra que Colbert s'en mêle, vienne protéger les comédiens, et c'est par cette ordonnance de juin 1673 que Colbert, le grand ministre de Louis XIV, va parvenir à fusionner ces deux troupes que sont donc les comédiens du Marais et puis la troupe de Molière. On s'installe donc rue Guénégo. La lettre de cachet de Louis XIV créant la nouvelle troupe n'est que du 21 octobre 1680. On a profité de la mort en juillet de la même année du directeur de la troupe de l'hôtel de Bourgogne, la Torillière, pour ordonner la jonction donc des troupes de l'hôtel de Bourgogne et de l'hôtel Guénégo. Et ça, c'est la naissance réelle de la comédie française qui donc fête cette année ses 331 ans. Alors, quelle est cette troupe? C'est une grosse troupe, vous imaginez qu'à force de fusionner, on finit par constituer une grande société de comédiens, 15 comédiens, 12 comédiennes, c'est-à-dire assez de monde pour jouer tous les jours, ce qui assure à cette troupe une véritable prospérité, d'autant plus qu'on est dans un système de monopole du théâtre à l'époque. Alors, les comédiens et comédiennes de l'époque, c'est Rosimond, Brécourt, c'est Poisson, c'est Michel Baron, bien entendu, pour les hommes, et puis pour ces dames, Armande Béjart, la veuve de Molière, Jeanne Beauval, Madeleine de Brie, La Chamélée, etc. Le directeur, c'est Lagrange, celui qui avait si patiemment compilé le registre de Molière. Et pour aplanir les vieilles rancunes qui peuvent exister entre ces différents comédiens, eh bien, le 5 janvier 1681, un contrat d'association est signé entre tous ces comédiens et comédiennes pour nourrir paix et union entre eux, dit le contrat. Ça, c'est le début de cette autogestion, en quelque sorte, qui, des siècles durant, va faire la force, mais aussi parfois la faiblesse, il faut bien le dire, de cette drôle de troupe que constituent les comédiens français. Bonjour Clotilde Bézère.
Bonjour.
Merci beaucoup de nous recevoir chez vous, si je puis dire. Vous êtes sociétaire, vous, du français, depuis pas mal d'années, depuis 97.
Oui. Enfin, je suis entrée dans la troupe en 97. J'ai d'abord été pensionnaire. Et sociétaire après.
Bien sûr, c'est comme ça, c'est dans cet ordre-là que ça se passe.
Exactement.
Est-ce qu'on peut dire que l'esprit du contrat de ce tout début des années 1680 existe toujours ? Est-ce que le souffle est le même dans la troupe ?
Oui, je crois que ce qu'il y a de très beau dans cette troupe, c'est ses traditions. Et c'est vrai que la Société des comédiens français est forte de ses traditions. Et on se rend compte, au fur et à mesure de l'histoire, qu'à chaque fois qu'on essaye d'en changer les règles, c'est très compliqué parce que ces règles nous protègent. Et ces règles sont très forte et passe les siècles.
Alors, il y a des assemblées, ça se passe comment ? Comme une sorte de conseil d'administration, en quelque sorte ?
Alors, la troupe donc est constituée de deux sortes de comédiens, les pensionnaires qui sont engagés par l'administrateur et les sociétaires qui sont élus par l'assemblée des comédiens. Cette société de comédiens élit elle-même des délégués qui font partie d'un comité. Et ce comité-là assiste au comité de lecture qui décide du répertoire de la salle Richelieu. Et c'est ce comité-là qui gère la troupe, c'est-à-dire c'est ce comité-là qui va décider de l'avancement, de la récompense un petit peu, du salaire et des parts de société et du départ des comédiens. Donc c'est une troupe qui est autogérée et c'est vrai que c'est un système qui est formidable pour ça parce que c'est pas une personne qui décide, c'est une assemblée collégiale et c'est, je trouve, une façon très belle de faire les choses. Je suis membre cette année du comité. C'est un comité qui change tous les ans. Donc, la roue tourne.
C'est là qu'il y a les fameux jetons de présence avec la ruche.
Il y avait, oui. Maintenant, c'est fini.
Plus,
non, ça n'existe plus, tout ça. Mais c'est vrai que c'était pour les assemblées. Tout le monde avait un jeton.
Alors, avec vous, chers sociétaires, et avec le public qui nous accompagne aujourd'hui, constitué d'auditeurs d'Europe 1, nous nous retrouvons dans un instant.
Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Et nous retrouvons Franck depuis le Théâtre Français.
Nous sommes donc toujours ici à la Comédie Française, dans le quartier du Palais Royal à Paris. Nous sommes dans le Saint des Saints, tout près de cette salle Richelieu, dans laquelle nous entrerons tout à l'heure à la fin de cette émission. Et nous nous trouvons dans le foyer des artistes. À quoi sert-il ce foyer des artistes, Clotilde Bézère ? C'est votre lieu de réunion à vous ?
C'est le lieu où on attend avant d'entrer en scène. Il y a une petite télévision dans un coin de la salle et on regarde, on écoute le spectacle et on essaye de ne pas rater nos entrées parce que c'est un lieu de réunion, donc on parle, on discute, on essaye de décompresser. Là, c'est notre petit lieu sacré.
Bonjour Hélène Tierchamp.
Bonjour.
Vous êtes l'auteur avec Gérard Vatelet d'un très très beau livre, ça s'appelle « La grande histoire de la comédie française », c'est plus qu'un ouvrage, c'est un monument, une sorte d'énorme album dans un très beau coffret avec des illustrations magnifiques et un texte passionnant où vous nous montrez que les débuts de la comédie française n'ont pas été faciles. Il a fallu notamment déménager un grand nombre de fois pour cette troupe nouvellement constituée.
D'abord, la troupe, la comédie française, à la mort de Molière, était sur la rive gauche. Elle était rue Guénégaud dans un jeu de paume.
Ah oui.
À la mort de Mazarin, il a été question de faire un collège des quatre nations sous l'égide de la Sorbonne et les docteurs en théologie
ne
refusaient...
Ne voulaient pas être à côté des comédiens.
Les comédiens, c'était des excommuniés à l'époque.
À chaque fois qu'ils veulent s'installer quelque part à l'hôtel de Sourdis, ils ont contre eux la chorale de Saint-Germain-l'Auxerrois qui ne veut pas les fréquenter. Quand ils s'installent au coin de la rue de Savoie, qui est l'actuelle rue Séguier, c'est la paroisse qui proteste. Et puis le curé de Saint-Eustache proteste ensuite quand ils s'installent rue des Petits-Champs. Ils sont très indésirables, ces comédiens français.
Et quand ce ne sont pas les curés, ce sont les bourgeois quand ils vont dans une rue, quand ils visent un hôtel particulier dans une rue un petit peu tranquille, qui disent les fiacres, les vinaigrettes, l'affluence des gens, ça fera du bruit dans la rue. Ils vont financer avec leur propre cachet, ils vont se financer des théâtres et ils vont contracter des dettes. C'est absolument étonnant dans l'histoire des troupes.
Le grand architecte François Dorbet qui aménage leur nouvelle salle dans l'actuelle rue de l'Ancienne Comédie ne les fait pas payer. Il renvoie à Armande Béjart la bourse d'or qu'elle lui avait adressée quand même. Bon.
Il faut dire que tous les gens qui aidaient la Comédie Française bénéficiaient d'entrées à vie. Les places étaient quand même assez chères et ils pouvaient amener des amis. Donc il y avait...
Comédiens dans la troupe qui sont déjà de véritables légendes vivantes. Clotilde Bézère, vous avez évidemment Lequin, et puis Adrienne Lecouvreur, La Clairon aussi.
Oui, Lequin et La Clairon étaient très importants parce qu'ils ont fait évoluer complètement le costume. Et c'est vrai qu'ils ont recherché une vérité les premiers, parce qu'il faut savoir que c'est les comédiens qui payaient leurs costumes. Donc, on avait le droit à des extravagances incroyables. Et c'est vrai que plus on avait un costume incroyable et visible, et plus on avait l'impression que le public allait vous regarder. Donc, on avait des costumes, c'était les fées, les sorcières, enfin, c'était un truc incroyable. Donc, cette recherche du vrai costume commence avec Lequin et Clairon.
Et recherche de la vraie diction aussi, c'est-à-dire qu'on abandonne l'ancienne phraséologie, l'ancienne façon de prononcer très très ampoulée pour adopter un langage plus proche du langage quotidien.
Oui, alors c'est, tout ça c'est des recherches parce qu'évidemment c'est très relatif.
Oui.
C'est-à-dire que même les recherches dans le costume, quand on voit les photos, on rigole.
Ça reste quand même.
Mais il y avait quand même cette volonté de...
Donc on ne va se mettre à jouer en costume d'époque que beaucoup plus tard sous Louis-Philippe, hein, du reste.
Ah, ça commence avec Talma.
Talma.
Ça commence à 1790.
Talma qui joue pieds nus et en toge.
Oui, ça, c'est... et qui joue, donc qui a fait dessiner son costume. Il joue Brutus de Voltaire, on revient à Voltaire. Et il joue le Romain dans un costume que lui a dessiné le peintre David, spécialiste des Romains s'il en est. Il met donc une toge. Il est sans collant, sans maillot, pieds nus. Et
il a une perruque courte aussi.
Il a une perruque courte.
Oui, donc c'est une révolution incroyable.
Et sa partenaire, Madame Vestris, va lui dire « Comment, Talma, vous ne portez pas de culotte ?» Il dit « Mais les Romains n'en portaient pas, Madame. » Elle crie « Cochon !» et elle quitte la scène. Par contre, le public, en 1790, nous sommes au lendemain de la prise de la Bastille, et le public voit dans la prise de position de Talma un acte révolutionnaire, un acte citoyen, et applaudit, et Talma va devenir la grande vedette de la comédie française.
Quels sont vos modèles parmi les grandes comédiennes de cette époque du début du 19e siècle? Il y en a, Clotilde Bézère?
Ce n'est pas vraiment des modèles, mais c'est des exemples d'actrices assez incroyables, avec des caractères amusants. Il y a par exemple Mademoiselle Mars, qui était quand même quelqu'un d'assez extraordinaire et qui tenait tête aux auteurs, comme par exemple Hugo. Elle avait
dans Hernani, elle refusait de dire notamment « Vous êtes mon lion superbe et généreux ».
Oui, oui. Elle trouvait ça très très laid. Et surtout, le rôle avait été plus ou moins écrit en pensant à quelqu'un comme Talma. Et c'était un acteur beaucoup plus petit et fluet qui jouait le rôle, avec beaucoup moins de moyens. Et donc, de dire un lion à cette personne-là, elle ne pouvait pas le supporter.
C'est un lionceau.
Donc elle a lutté âprement pour ne pas dire ça. Elle lui a proposé plein d'autres choses, mais Hugo tenait fermement à son lion et a fini par l'obtenir.
Dans un instant, nous continuons cette passionnante pérégrination dans le temps, mais aussi dans l'espace, puisque nous allons nous promener du côté de la galerie, la grande galerie là-bas, vous allez voir.
Franck Ferrand sur Europe 1.
Franck, qui nous en parle depuis tout à l'heure, et ça y est, il ose enfin entrer dans la salle Richelieu.
Et oui, Julia, et nous tournons autour de cette salle comme si on n'osait pas y entrer. Je vous rassure, on va y aller tout à l'heure. Et puis, les auditeurs qui sont avec nous visiteront également des parties, notamment tous les ateliers, car il ne faut pas oublier que la Comédie française, c'est aussi un véritable creuset pour les métiers d'art. Nous en parlerons de ça avec Muriel Mayette. Nous sommes en compagnie d'un pensionnaire. Maintenant, vous savez faire la différence entre les sociétaires et les pensionnaires. Nous sommes avec Nazim Boujna. Bonjour, Nazim Boujna.
Bonjour.
Vous jouez en ce moment le marié dans la noce de Brest?
Oui, tout à fait.
Alors, vous êtes entré quand, vous, à la Comédie française?
Je suis rentré il y a 2 ans maintenant. Voilà, je suis pensionnaire depuis 2 ans.
L'un des principes d'une troupe, parce que là, nous sommes vraiment dans une troupe permanente,
oui,
c'est que vous devez jouer simultanément plusieurs rôles dans des productions parfois très différentes.
Oui, parfois... On peut avoir un très grand rôle et parfois
On vous demande de jouer quasiment les utilités, oui.
Dans la même période.
Il faut se plier à tout ça.
Oui, c'est très bien, c'est une très belle école d'humilité.
Alors, je parlais tout à l'heure de l'organisation de la Comédie française, nous racontions son histoire et nous avons évoqué très rapidement la Révolution, une période très difficile de 1789 à 1799 pour la Comédie française. Et puis, comme toujours, le premier consul Zorro est arrivé, si je puis dire, une fois de plus, comme toutes les grandes institutions françaises, c'est Napoléon Bonaparte qui va remettre tout ça sur pied et il va signer le fameux décret de Moscou qui est l'organisation, qui est le règlement intérieur, si je puis dire, de la Comédie française, un décret de Moscou qu'on appelle ainsi parce qu'il l'a signé là-bas pendant la campagne de Russie, à Moscou, ça paraît un peu incroyable mais c'est ainsi, un décret qui pour l'essentiel et avec quelques petites modifications, est toujours appliqué de nos jours. Ça doit être un peu... Là, on est en train de se promener dans la... Il faut expliquer, hein, nous sommes le long de la place Colette, dans cette galerie avec tous ces personnages illustres. Nous sommes devant les bustes des grands auteurs, notamment. Nous avons là le buste de... Là, je suis devant le buste de Scribe. On a celui d'Hugo juste devant nous.
Et Musset, pas loin.
Et Musset, juste après. Ça a un côté quand même impressionnant. Vous êtes là, vous devez avoir l'impression d'être le serviteur d'une certaine culture.
Mais nous sommes, on est dépositaire de cette culture. C'est vrai que la Comédie française, c'est un lieu où on jouera toujours Hugo, toujours Racine, toujours Corneille.
Parmi les grands comédiens de la période plus récente, ceux qu'on a pu voir tous à la télévision évidemment, est-ce qu'il y a parmi les grands sociétaires du français des gens dont vous vous sentez vous plus proche? Il y a des personnes que vous admirez particulièrement dans les grands comédiens, je sais pas moi, des années 60, 70, qui ont fait la gloire de la Comédie française à l'époque où la télévision n'avait qu'une chaîne et où la Comédie française était très souvent.
Ouais, il y en a beaucoup, évidemment. Ouais, quelqu'un comme, je sais pas, Michel Aumont.
Oui, bien sûr.
On se souvient évidemment du passage de Isabelle Adjani.
Est-ce que les sociétaires vous donnent des conseils? Est-ce qu'il y a un lien entre sociétaires et pensionnaires? Est-ce que vous avez l'impression de, en quelque sorte, de continuer à vous former ici à la Comédie française?
Oui, tout à fait. De par la fréquence évidemment du travail, et puis aussi il y a une espèce de transmission qui se fait, en tout cas moi que j'ai connu, mais qui doit se faire, je pense, depuis la création de la troupe. On se passe tous le flambeau petit à petit.
Un ancien pensionnaire du Français, dont je ne citerai pas le nom, mais qui me racontait dans un dîner récemment une anecdote. Quand il était ici, il s'était trompé d'ascenseur, il était monté dans l'ascenseur des sociétaires.
Ça n'existe plus, ça.
C'est fini tout ça.
Non. C'est vrai qu'avant, il y a deux ascenseurs. Il y en a un très grand, c'était pour les sociétaires qui étaient quand même moins nombreux. Et puis il y en a un très petit qui était pour le reste des gens qui travaillaient dans la maison. Mais maintenant, tout le monde peut prendre les deux ascenseurs indifféremment.
Si même la Comédie française se démocratise, où allons-nous? Nous nous retrouvons dans un instant dans le cœur même de la salle Richelieu. Mais je n'oublie pas qu'en attendant, nous avons des nouvelles de cette hôte de Noël qui vous tient en haleine.
Franck Ferrand sur Europe 1.
Et nous suivons toujours sur Europe 1 les pérégrinations de Franck aux Français.
Et ici, Julia, c'est la pénombre en plein jour. Nous sommes entrés dans cette somptueuse salle Richelieu de la Comédie française. Et en ce moment, on est en train, pour un spectacle, pour le fil à la patte de Feydeau, si je ne m'abuse, on est en train de faire des réglages lumière, ce qui explique que nous soyons plongés dans une semi-obscurité en votre compagnie, puisque vous nous avez rejoint, Muriel Mayette. Merci beaucoup. Nous étions en train de dire il y a quelques minutes avec Nazim que cette maison est aussi un creuset pour les arts, pour les métiers d'art. On fait de la broderie, on fait de toutes sortes de choses extraordinaires.
On abrite 22 métiers d'artisanat et on a fait rentrer dernièrement sur le plateau, puisque le théâtre accueille une multiplicité de disciplines nouvelles, comme la musique, la vidéo. On a fait rentrer les marionnettes, on fait des disques. On essaie d'ouvrir notre savoir-faire à de nouvelles pratiques qui viennent enrichir tous les spectacles de la création aujourd'hui.
Alors quand on regarde évidemment l'extraordinaire déploiement de tous ces balcons à l'italienne, plein de dorures, tout ce velours rouge, ce bois, tout ça est somptueux, on est là dans la plus pure tradition. Il y a constamment chez vous une balance entre tradition et modernité, voire futurisme parfois. Il y a des spectacles d'avant-garde à la Comédie française aussi.
On est sous l'œil des cariatides, donc on a hérité d'une histoire conséquente, énorme, riche, mais qui a, et vous l'avez dit tout à l'heure, qui par moments a fait scandale, qui doit remuer, qui ne doit en tout cas jamais laisser indifférent. Et on s'échine chaque jour en levant le rideau à satisfaire le plus large public, un jour en ayant un rendez-vous plus classique, un jour en prenant le risque d'une création contemporaine et de faire découvrir au public les nouvelles écritures dramatiques.
Hélène Tierchamp, cette salle Richelieu, elle est dans cet état depuis quand à peu près?
Elle est depuis 1781, mais elle a été sans arrêt refaite.
Elle est la restaurée. Salle du Théâtre français depuis le tout début du 19e siècle, depuis 1799 exactement, fin
18e. 1799, bon. Elle devient le Théâtre français. Et c'est une salle qui a vu tous les grands mouvements depuis donc sous la Révolution, mais aussi toutes les grandes batailles ou les grands.
Quand vous dites bataille, ce sont des batailles du théâtre. On pense bien entendu à la plus célèbre d'entre elles, en 1830, la fameuse bataille d'Hernani.
La bataille d'Hernani, mais elle a vu aussi la bataille du naturalisme avec Henriette Maréchal. Elle a vu la bataille politique sous le Front populaire avec Coriolan. C'est une salle qui a toujours été vivante, où le public, longtemps, il n'y avait pas de cinéma, il n'y avait pas d'autres médias, et les gens, les Parisiens venaient au théâtre, ils vivaient avec les comédiens et avec le répertoire.
Mais de très grands enjeux ici finalement. Quels ont été les administrateurs qui ont fait bouger un peu la maison, si je puis dire, Muriel Mayette?
Ah, je serais tentée de dire que ce sont surtout les acteurs, les grandes interprétations qui font bouger la maison. Vous parlez de bataille, mais par exemple, le théâtre marchait plus tellement et puis Rachel est arrivée et son interprétation a fait revenir tout le public.
On a vu Talma aujourd'hui, tout à l'heure, Rachel, évidemment, hein, ce sont les grands.
Aujourd'hui, je crois que la troupe, l'excellence de la troupe, leur camaraderie, leur talent fait venir le public ici. Et je le dis sans fausse humilité, c'est quand même le grand théâtre des acteurs. Alors après, il faut des administrateurs parce que la gestion est de plus en plus complexe. Et puis qu'il faut bien un chef de troupe pour montrer une direction, pour que tout le monde regarde dans le même sens.
Le répertoire s'est beaucoup renouvelé, bien entendu. Quelles sont les dernières pièces entrées au répertoire pour donner à nos auditeurs une idée de ce qu'on peut jouer désormais à la Comédie Française?
Mais là, on va jouer cette saison La Puce, Une Puce épargnée là, qui est une pièce de Naomi Wallace, un auteur, une jeune femme américaine. C'est l'entrée au répertoire du théâtre étranger contemporain, puisqu'elle a une quarantaine d'années. On a fait rentrer, sous le sceau du secret, une pièce d'origine arabe, de grand classique arabe qui va être jouée prochainement. On fait parfois rentrer aussi au répertoire des grands classiques qu'on n'avait encore jamais joués.
Alors vous avez deux autres salles, il faut le dire. Vous ne jouez pas seulement ici à la salle Richelieu. Il y a également le Vieux Colombier, il y a le studio théâtre.
Qui joue tous les jours à 18h30. Et puis en ce moment, on a ce projet merveilleux puisqu'on va être, on est déjà en travaux, mais qu'on va fermer la salle Richelieu pour une année. On va jouer, on se construit un théâtre sublime. On est dans l'âme du violon puisque c'est un théâtre en bois qu'on appelle un théâtre éphémère qu'on a déjà envie de garder tellement il est beau. Dans les jardins du Palais Royal, sur nos réserves, sur nos sources vives. Et ce sera un théâtre de 750 places, encore plus confortable que Richelieu, parce que tout sera en frontal, toutes les places seront bonnes, et on commence déjà depuis une semaine à y répéter. Il ouvrira en janvier.
Quelles ont été les grandes mises en scène qui ont le plus marqué le XXe siècle à la Comédie Française, que ce soit ici ou sur d'autres scènes, évidemment? Hélène Tirchon.
Écoutez, moi, je m'arrêterai à la période de l'occupation parce que je crois que c'était la période la plus difficile où il faisait froid, les Allemands étaient dans Paris, il n'y avait pas de chauffage, il n'y avait pas de charbon, il n'y avait pas de transport, il y avait une pénurie de bois, de tissus. Et je crois que là, les acteurs de la Comédie Française et la troupe ont été presque l'âme de la France. Ils ont monté non seulement des pièces classiques, mais ils ont créé deux chefs-d'œuvre qui étaient Monterland, La Reine Morte, et qui étaient surtout le Soulier de Satin 42. en faisant en 43 des miracles, une pièce qui durait 5 heures sous les bombardements, où les gens venaient avec le thermos et couvertures parce que quelquefois la représentation était interrompue. Et je crois que s'il y a quelque chose qui doit marquer, historiquement, c'est cette période-là. Bon, et moi, j'ai une petite tendresse pour les trois sœurs que j'ai vues l'année dernière et que je trouve une pièce magnifique.
Je serais tentée de compléter pour nous autres comédiens, et là, c'est plus l'actrice qui s'exprime, c'est la dernière création la plus importante. C'est celle que nous sommes en train de répéter, qui nous angoisse, qui nous inquiète, qui nous fait parler. Et puis d'un seul coup, il y a la magie des premières représentations et quelque chose avec le public s'accouche.
Muriel Mayette, on peut retrouver la mémoire de ces spectacles à Moulins. Il ne faut jamais manquer une occasion de le dire. On a là-bas des costumes.
C'est une exposition. C'est le Centre national du costume de scène.
C'est ça. Il y a en ce moment une expo, alors là, qui va bientôt finir, le 31 décembre prochain. Mais moi, je ne l'ai pas encore vue, cette exposition. Mais tous ceux qui l'ont vue me disent, il faut absolument y aller. C'est une merveille absolue.
Oui, on voit l'évolution des corps. On voit à quel point les costumes sont usés par l'interprétation, en fait, par l'énergie émotionnelle émotionnel que véhiculent les acteurs. C'est une Moulins, c'est loin, mais je vous jure que personne ne regrette ce voyage. Les premiers costumes datent de 1750. C'est une merveille. Et on finit avec toute une représentation de costumes suspendus qui se reflètent dans un bassin d'eau. Allez-y.
Ah, ça, on a très, très envie. Et puis le Petit Palais, ça, c'est beaucoup plus près pour les Parisiens, en tout cas. La Comédie Française s'expose au Petit Palais. C'est une exposition qui a lieu jusqu'au 15 janvier prochain. Donc, je pense que ça, pour tous les amoureux du théâtre, c'est également presque un pèlerinage à faire. Merci beaucoup, Muriel Mayette. Merci, Hélène Tierchamp. Je rappelle le titre de votre ouvrage avec Gérard Vatelet aux éditions Télémaque, en partenariat avec la Comédie Française. La grande histoire de la Comédie Française, c'est presque un monument de papier et qui se termine, comme tout beau monument, par une superbe galerie, en l'occurrence une galerie de portraits dont on n'a pas envie de sortir. Merci beaucoup. Merci au public qui, très sagement, est bien assis dans cette salle Richelieu, nous a suivis depuis le début. Et, chère Julia, vous retrouvez-vous au studio de la rue François 1er.
Exactement. Elena Morda vient d'ailleurs de me rejoindre.
Bonjour Elena Morda.
Bonjour Franck, bonjour à tous. Alors nous sommes ensemble pendant une heure et demie avec les experts européens pour parler de voitures. Vous savez que c'est un des budgets qui coûte le plus cher chez les ménages français. Eh bien avec les experts, nous allons réduire la note, réduire la facture. C'est possible et nous attendons toujours vos questions au 39-21, c'est 34 centimes d'euros la minute ou sur europe1.fr.
Merci Elena, bon week-end et je vous dis à lundi Julia.
Et nous serons là effectivement à lundi Franck.
Franck Ferrand nous parle de son nouveau livre.
Vous aimez Au cœur de l'histoire sur Europe 1, alors ce message est pour vous. Parmi les grands récits de l'émission, j'ai choisi mes préférés et j'en ai fait un livre. Des pharaons aux cosmonautes, voici 30 aventures inoubliables des personnages hors du commun.
Avec en cadeau un CD de 4 histoires inédites. Au cœur de l'histoire, aux éditions Flammarion.